Salut, c'est la mère au panier, nous sommes Marie et Clément. Chaque semaine, on vous parlera d'élevage, de bonne bouffe, de philosophie, de poésie. On passera des idées reçues à la moulinette, tout en s'égratignant au passage. Bref, on va vous mettre la mère au panier.
Let me take you on a little trip, my supersonic ship. At your disposal if you feel so inclined. All right.
Salut à tous et bienvenue dans la mère au panier. La semaine dernière, nous vous avions parlé de la problématique du loup et des chiens de protection. Cette semaine, nous avons décidé de compléter un peu le sujet en vous lisant cet article très intéressant du livre Révolution animale. Il est écrit par Luigi Boitani, chercheur sur l'écologie du loup à l'IUCN. L'Union internationale pour la conservation de la nature est un réseau international de scientifiques, d'ONG, d'organisations de peuples autochtones et d'organismes gouvernementaux établis en 6 commissions à travers le monde, qui travaille à l'observation de l'environnement, des espèces menacées, qui promeut des solutions pour la sauvegarde de l'environnement et la mise en œuvre d'accords internationaux sur le climat et des objectifs de développement durable.
Les vagabonds. Dans notre monde occidental, nous cultivons depuis toujours l'image du chien meilleur ami de l'homme, compagnon inséparable auquel nous procurons nourriture, refuge et compagnie en échange de multiples services. Les statistiques confirment que l'immense majorité des chiens d'Europe et d'Amérique du Nord vivent effectivement sous la dépendance directe de l'homme. Le Royaume-Uni, par exemple, abrite plus de 8,5 millions de chiens, et exception faite des quelques chiens qui se sont perdus ou qui ont échappé à l'attention de leur maître, les chiens errants y sont presque inexistants. Dans ces conditions, la règle est que le chien vit avec l'homme. Le chien errant est une exception, une déviance à corriger, un état d'abandon qui suscite la pitié et qui exige une solution. De plus, la plupart de nos chiens appartiennent à une race ou sont proches d'une des quelques 400 races reconnues, et leur reproduction est en grande partie encadrée par l'homme. Les chiens bâtards sont une minorité, presque une exception, souvent perçus comme un trouble à l'ordre des races préconstituées.
Profil du chien errant. Mais si nous sortons du modèle culturel occidental, nous nous apercevons que la situation est tout à fait différente. Les bâtards, c'est-à-dire les chiens qui ne sont pas issus d'accouplements programmés ni d'une sélection de caractères, sont la règle. Et les chiens de race sont l'exception. Et le plus souvent, les bâtards se rapprochent tous d'un écotype commun à toutes les latitudes et à tous les continents. Ce sont des chiens de taille moyenne, souvent jaune-orange, à poils courts, à longue queue, maigres et élancés. La grande majorité d'entre eux mènent une existence indépendante, échappant à la férule de l'homme. Pour se nourrir et pour s'abriter, ils dépendent des ressources qui proviennent des activités anthropiques. Qu'ils vivent en marge des communautés humaines ou en leur sein, ils ne connaissent pas ce rapport étroit entre le chien et son maître, qui, à nos yeux, paraît naturel. Cette existence semi-indépendante, la reproduction libre et la sélection naturelle produisent par convergence sélective l'écotype commun du chien jaune. Personne ne sait combien de chiens vivent dans le monde, mais l'estimation proposée par Ray Coppinger, environ 1 milliard de chiens, est vraisemblable et acceptable. La plupart d'entre eux vivent en Asie, en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ils échappent à la domination de l'homme et sont libres de se déplacer où bon leur semble. Ce sont des chiens errants, êtres free-ranging et la règle de la vie canine. Ce n'est pas l'exception. Sont-ils complètement indépendants de l'homme? Certains le sont probablement, mais pas tous. Dans l'immense quantité de chiens errants, il existe de multiples catégories que nous pouvons définir d'après leur degré d'indépendance par rapport à l'homme. Il ne s'agit pas de catégories nettement séparées, mais plutôt d'un continuum de conditions et de modes de vie. Dans cette optique, il convient de dépasser le schéma étroit que nous impose une représentation mentale trop limitée pour s'ouvrir à l'immense diversité comportementale et écologique des chiens qui vivent sans entretenir un rapport constant avec un maître.
En effet, la relation étroite et permanente avec l'homme n'est pas obligatoire. Les chiens peuvent avoir différents degrés d'autonomie par rapport à l'homme et à ses ressources. Le véritable chien errant est un chien qui a connu le rapport affectif et quotidien avec un maître humain, rejeté ou abandonné par l'homme, ou simplement perdu pendant une promenade. Ce chien continue à rechercher le voisinage de l'homme, autant par besoin d'affection que pour assurer sa survie. Ce sont les chiens qui sont concernés par les programmes de rénovation de nos villes européennes et américaines. Ce sont eux aussi qui, par leur demande d'affection et en raison du sentiment de culpabilité que suscite l'animal abandonné, recueillent la sympathie immédiate du public et des organisations qui s'occupent du bien-être animal. Aux chiens errants se mêlent souvent ceux qui, surtout dans les milieux ruraux et montagnards, ont un maître mais sont libres de se déplacer. Ils ont un propriétaire vers lequel ils se retournent souvent, surtout pour trouver leur nourriture, mais pour le reste du temps, ils vagabondent librement dans les villages et dans les villes, et aux alentours, en particulier sous les latitudes basses et moyennes. En Europe, ces chiens sont presque inexistants dans les pays nordiques, mais très répandus dans les pays de la Méditerranée. Avec les chiens errants, ils forment des groupes souvent nombreux, se battent pour une femelle en chaleur ou pour un territoire mieux pourvu en ressources alimentaires, comme un dépôt d'immondices par exemple.
Les chiens errants, comme les chiens qui ont un maître mais qui sont libres de vagabonder, se retrouvent facilement dans une catégorie qui marque un pas supplémentaire vers l'affranchissement de l'humain. Ce sont les nombreux chiens qui vivent en contact avec les activités humaines, mais sans aucun rapport direct, passé ou présent, avec l'homme. Ce que l'on nomme les village dogs. C'est ainsi que se sont constituées les célèbres populations canines, connues depuis l'Antiquité, des grandes métropoles du bassin de la Méditerranée. En 1860, le grand naturaliste Alfred Edmund Brehm, auteur d'une volumineuse encyclopédie des animaux, décrivit en recourant à leur nom latin les sous-espèces particulières des chiens qui vivaient à Istanbul, à Alexandrie, à Athènes et dans d'autres villes de Méditerranée. L'évolution génétique ainsi que d'autres facteurs qui ne concernent pas nécessairement l'adaptation à la survie dans ces grandes villes avaient donné à ces chiens une série de caractéristiques morphologiques assez homogènes qui permettaient de les attribuer à différentes populations. Au-delà des simplifications utilisées par Brehm, ce sont ces chiens qui forment le corps le plus nombreux de la population canine mondiale. On les trouve dans tous les villages et toutes les communautés anthropiques de la Terre, à l'exception des lieux soumis aux climats les plus difficiles. Parmi ces populations, certaines sont bien connues. Elles ont été étudiées et même protégées. C'est le cas par exemple des chiens de la grande décharge d'immondices de Mexico ou des chiens qui vivent dans le métro de Moscou qui ont appris à se déplacer en utilisant les rames et à demander de la nourriture aux passagers. On peut aussi mentionner les chiens qui, dans tous les villages d'Afrique, fouillent les détritus, n'y trouvant parfois pour se nourrir que des excréments humains. Ou les chiens qui colonisent les égouts de Bucarest, ou encore ceux qui vivent dans les banlieues d'Italie du Sud et qui, la nuit, se lancent à l'assaut des poubelles jusque dans le centre des villes. En Amérique du Nord, le phénomène est en pleine expansion. La ville de Détroit abriterait à elle seule près de 50 000 chiens errants. Pour les désigner, Conrad Lorenz avait forgé le terme de « paria dog » en se référant en particulier à l'Inde, et plus récemment, la notion a été reprise et confirmée par les chercheurs de Sunil Kumar Pal, mais le terme peut s'appliquer à tous les chiens qui, partout dans le monde, vivent en marge des communautés humaines. Thank you.
Le comportement et l'écologie du chien sont parmi les plus flexibles du monde animal, comme ceux du rat et de l'homme, et permettent une phénoménale capacité d'adaptation à toutes les situations. Animaux solitaires, là où les ressources sont rares, groupes nombreux et plus structurés, là où la nourriture est abondante. Hiérarchie fluctuante, là où la mortalité est élevée et où les individus sont renouvelés rapidement. Hiérarchie plus stable, là où l'environnement est moins imprévisible. Chez les chiens, la hiérarchie de groupe qui permet la reproduction d'une seule femelle n'existe pas. Dans un groupe de chiens, toutes les femelles s'accouplent et mettent bas deux fois par an, ce qui procure à la population une exceptionnelle capacité de croissance. Et le rapport avec les hommes, il est régi par un parfait opportunisme, qui permet d'en tirer un avantage maximal, avec une dépense minimale d'énergie. La niche écologique des chiens est définie par les ressources, nourriture et refuge, que l'homme, par choix ou par négligence, met à la disposition d'éventuels convives. Les chiens tirent parti de la moindre ressource disponible, une des stratégies évolutives qui ont fait la fortune du chien par rapport au loup, son ancêtre probable, ou du moins son proche parent, consista précisément à rompre avec la rigidité comportementale du loup. Les modules comportementaux que nous identifions dans la vie sociale du loup, territoire, hiérarchie, soins des petits, relations de couple et bien d'autres, sont encore présents chez le chien, mais sous une forme diluée et assouplie, ce qui constitue un énorme avantage évolutif pour exploiter une niche dont les caractéristiques varient selon les conditions sociales et économiques des communautés humaines locales.
Mais il y a aussi certains chiens, ils forment la dernière catégorie des chiens errants, qui choisissent de mener une vie complètement étrangère à l'homme et à ses ressources. Il s'agit des chiens féraux, qui ont abandonné le voisinage de l'homme pour vivre uniquement dans un environnement sauvage. Ils se nourrissent de gibier et de l'une ou l'autre proie domestique. Dotés d'un territoire bien défendu, ils fuient la présence d'intrus humains. Une étude que notre groupe de recherche a menée sur l'Apennine de l'Italie centrale a montré la capacité de ces chiens de survivre sans jamais fréquenter l'habitat humain, en puisant dans les ressources sauvages et en faisant quelques incursions dans les décharges d'immondices, exactement comme les loups sauvages qui habitaient la même région, mais sur des territoires différents. Néanmoins, ces chiens ont aussi montré qu'ils dépendaient indirectement de l'homme pour leur survie. Leur mortalité naturelle étant très élevée, le groupe se serait rapidement éteint s'il n'avait pas été continuellement renforcé par de nouveaux éléments provenant des villages voisins. En d'autres termes, le groupe est resté stable parce que des chiens de village sont passés dans la catégorie des chiens féraux. Durant nos 3 années d'études, ce groupe de chiens a donné plus de 40 petits, mais un seul est parvenu à l'âge d'1 an. L'absence totale de soins parentaux de la part des chiens adultes du groupe fit en sorte que tous les autres sont morts durant leur premier mois d'existence. On peut donc affirmer que ces chiens féraux dépendent, eux aussi, de l'action humaine. Des études menées en Amérique du Nord ont montré qu'ils étaient fondamentalement incapables de survivre sans recruter des populations plus proches de l'homme. Les chiens errants qui mènent une existence affranchie de tout contrôle sanitaire sont les porteurs potentiels de maladies. Ils peuvent, pour certains, devenir agressifs au point d'attaquer l'homme, de s'en prendre au bétail domestique et aux animaux sauvages. Enfin, comme ils s'accouplent avec d'autres canidés sauvages, en particulier le loup, l'hybridation avec le chien figure parmi les premières menaces qui pèsent sur la conservation du loup en Italie.
Que faire de ces innombrables chiens errants ? Les réponses varient selon les conditions écologiques, sociales et normatives dans lesquelles vivent les populations de chiens. Elles diffèrent aussi selon les sensibilités éthiques et les outils techniques et politiques que tous les pays sont capables d'exprimer. Certes, il n'est pas imaginable de résoudre le problème des village dogs en Afrique, tant le phénomène est répandu. Mais il n'est pas non plus souhaitable de le résoudre, parce que ces village dogs se caractérisent, en fin de compte, par une sorte de coexistence relativement inoffensive et pacifique avec l'homme. La situation est différente, par contre, pour les chiens errants et féraux, qui vivent dans les banlieues des grandes villes européennes et américaines, et dans les milieux ruraux. La sensibilité grandissante à l'égard du bien-être animal, des conditions de vie des animaux domestiques et de leur droit à la vie, incite la plupart des pays occidentaux à investir de plus en plus massivement dans des structures d'accueil. Pour beaucoup, cette solution est préférable à celle qui consisterait à les abattre. Pour d'autres, la solution consiste à capturer et à stériliser les animaux, puis à les relâcher là où ils ont été capturés. Chacun de nous cultive son éthique personnelle, qui contribue à celle de la société où il vit. et chacun de nous a la vision partielle de ses intérêts particuliers. La recherche d'un équilibre entre les différentes positions éthiques paralyse souvent les pouvoirs publics, ce qui a des conséquences souvent peu acceptables. Les campagnes d'extermination par le poison, qui tuent sans distinction des chiens et bien d'autres animaux, sauvages ou domestiques, ou les programmes de capture et d'élimination. Dans notre monde occidental, la seule réponse sage et de long terme serait de modifier radicalement notre attitude envers le chien, de ne plus en faire un outil à notre service, mais bien un sujet de notre responsabilité. Voilà le premier pas indispensable pour tarir à la source la production continuelle de chiens errants.
La semaine prochaine, nous vous parlerons des chiens de protection, plus particulièrement de la relation entre les hommes et les chiens. Ami berger, ouvre tes oreilles.
Bisous lapin!
The man killed a lion between punishment and crime. On the planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a
fashion show.
White man had the British pop, and black man had soul.
No, not a drop of blood, cause we the all kill the rock and roll.
And God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became a cold machine.
No more love, no more power.
Machine without gasoline. Wake up, crowd, wake up from your boring dream. There is one thing, there is thunder. What's up with you, I wonder?
Lift your shoulders, stamp your feet, produce the extra protein.
I'm gonna hit you with my rhythm stick. So let her be alive. Let her be sound. Let her be a music divine, cause it's unza, 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 unza time. It's unza, 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 unza time. It's unza time. Music divine, cause it's unza, 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 unza,
unser, unser Time. It's unser, 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 unser Time. It's unser, 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 unser Hit. You're with my rhythm stick.